Vous êtes à l'écoute de Conversations RH. Dans cette collection de podcasts, vous allez découvrir des éclairages d'experts passionnants qui vous apportent, chers auditeurs, des réponses concrètes aux problématiques liées aux ressources humaines et à la vie de l'entreprise. Alors n'hésitez pas à découvrir les épisodes des différentes saisons de Conversations RH dans lesquelles nous traitons les ressources humaines sous des angles sociétaux, psycho et techno. Comment faire face au brownout de vos équipes? Les recrutements dans le métaverse sont-ils possibles? Quels sont les bons tips pour les candidats et les recruteurs? Ou encore comment améliorer l'attractivité marque employeur? Toutes ces réponses sont dans Conversations RH. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conversations RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Encore un grand merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Vous êtes nombreux à nous suivre et votre fidélité nous encourage dans ce beau projet. Continuez à nous écrire et partagez vos commentaires qui enrichissent nos réflexions sur toutes les questions essentielles concernant le recrutement en France. Conversation RH, vous le savez maintenant, c'est un podcast qui vous est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, management de transition et évaluation pour cadres et dirigeants. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet critique, le rôle des RH dans la gestion de crise. Vous le savez sûrement, une mauvaise gestion peut aggraver ses effets au sein de l'entreprise. Les dirigeants et les responsables des départements concernés doivent donc se préparer à réagir à une multitude de scénarios pour protéger au mieux la société. Et si une crise est impactante sur le moment, tout l'enjeu est justement d'agir à temps avec une solution durable. Alors comment s'y prendre? Tout d'abord, nous allons définir les caractéristiques d'une crise en entreprise. Nous parlerons de l'importance de s'y préparer, du rôle du ou de la DRH dans cette gestion, de la mission d'une cellule de crise et nous vous donnerons différents conseils pour en sortir plus renforcés. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Éléonore Piau. Bonjour Éléonore.
Bonjour David.
Éléonore, vous êtes partenaire chez LHH Recruitment Solutions, management de transition.
Absolument.
Absolument. Et Pierre Chanal, qui est également dans ce studio. Bonjour Pierre.
Bonjour David.
Bonjour, vous êtes Pierre, directeur des ressources humaines et depuis 8 ans dans le cadre d'une activité de management de transition. Vous volez de mission en mission dans différentes organisations, c'est bien ça?
Exactement, pour pouvoir aider les entreprises, les dirigeants et supporter les salariés tout au long des crises qui peuvent exister dans les entreprises.
Et bien on va en parler, je vous invite d'ailleurs à découvrir ou à redécouvrir le podcast consacré au management de transition qui a été réalisé lors de la saison numéro 1. Allez, pour commencer, je vais vous poser la première question. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux définir ce qui caractérise une crise en entreprise, Pierre?
En fait, il y a plusieurs mouvements de crise, plusieurs éléments qui vont créer des crises dans les entreprises. Comme toutes les organisations humaines, il y a des crises qui peuvent être extérieures à l'organisation ou des crises qui peuvent être internes. Et ces crises dans le monde de l'entreprise, elles ont plusieurs caractéristiques. Elles peuvent être économiques, elles peuvent être financières, elles peuvent être relatives, on va dire, aux équipes. Et on peut avoir également un mix de ces éléments économiques, financiers et humains.
Qui fait un cocktail savoureux, j'imagine.
Et exactement. Il faut savoir identifier les différents sujets, les différentes origines pour pouvoir tout simplement identifier les solutions et les mettre en œuvre.
Pierre, je crois que vous êtes équipier volontaire, bénévole à la protection civile. Vous êtes régulièrement en garde. Quel lien vous faites entre ces fonctions au sein de la protection civile et votre rôle de manager de transition dans le cadre de crise dans les entreprises?
On peut en fait imaginer un parallèle entre la manière d'intervenir. On arrive dans des situations qui sont des situations de crise avec une grande complexité où on va avoir à gérer des aspects techniques pour pouvoir protéger d'éventuelles victimes et aussi de pouvoir gérer les émotions de la victime et de son environnement. La fonction à ce moment-là, ça va être d'apporter une solution technique sur la victime, mais aussi de prendre en charge tous les aspects émotionnels qu'on a indiqués et de pouvoir, à un moment donné, extraire la victime vers un environnement où on va pouvoir la soigner.
Chacun fera le parallèle, effectivement, avec une situation de crise en entreprise, c'est assez clair.
Ça peut souvent ressembler, on va dire, à ce genre d'intervention.
Vous êtes un pompier des entreprises, Pierre, c'est ça?
C'est le rôle du manager de transition.
Quelques exemples, peut-être, Pierre, de crises en entreprise qui peuvent subvenir?
Je me rappelle avoir eu à gérer des crises qui étaient liées à un dirigeant, par exemple, un dirigeant qui, du jour au lendemain, n'est plus là. Ça peut arriver.
Plus il est charismatique, j'imagine, plus la crise s'envenime.
C'est exactement ça. Un dirigeant donc charismatique part de l'entreprise pour différentes raisons. Je me rappelle avoir été confronté à un moment donné, d'ailleurs au décès d'un des dirigeants, on va dire d'une manière très inopinée. Et il faut savoir mettre en œuvre donc les précautions et tout simplement les éléments qui vont pouvoir permettre aux équipes de passer ce moment et à l'entreprise de continuer donc à exister pour ses salariés, pour ses actionnaires.
Et vous dites, Pierre, qu'il existe aussi des crises de valeur en interne dans une entreprise. Qu'est-ce que c'est une crise de valeur?
À un moment donné, on peut avoir des idées sur l'endroit où on veut faire amener une entreprise et se rendre compte que l'objectif où on est n'a plus vraiment de sens et ne plus être porté par les dirigeants. Il est encore de manière, on va dire, un peu plus compliquée. On a un déficit d'adhésion donc des équipes.
Et oui. Et donc ça, c'est ce qui constitue une crise de valeur.
Tout à fait.
Éléonore, votre définition de la crise?
Pour moi, une crise, d'abord, elle bouleverse l'entreprise. Et il y a vraiment une notion de soudaineté et de gravité. Mmh. Et il faut réagir. Elles sont externes, elles sont internes. Tu parlais de crise de valeur. J'ai des exemples en tête où il peut y avoir un gros décalage entre ce qui est véhiculé de l'entreprise et ce que vivent les salariés. Et ça, c'est des crises importantes. Parce qu'il faut embarquer les salariés en permanence et quand on est dans ce genre de crise, ça devient très compliqué. Mais ça peut être, comme disait Pierre, financier, économique, managérial. Ouais. Il y a des tas de possibilités sur les crises et il y a aussi les crises de croissance. Ouais. On pense que souvent qu'à la décroissance, mais la croissance peut être très difficile à gérer. Je pense à des startups qui s'envolent et en fait, parfois, ils ont besoin de managers de transition capés pour structurer, pour les aider à avancer. Et ça, ce sont des crises de croissance. On n'y pense jamais parce qu'on se dit que la croissance, c'est merveilleux, mais pas que.
Il peut y avoir des crises de fournisseurs, d'après ce que je comprends aussi.
Oui, par exemple, le conflit en Ukraine a eu des grosses incidences sur les énergies et de nombreuses industries qui consomment énormément d'énergie. Je pense à l'industrie verrière. Et on a vu des exemples de sociétés qui ont dû interrompre, peuvent vivre en effet des crises comme ça. Et là, il faut que l'entreprise repense son modèle.
Ouais. Différents types de crises, différentes origines. Dans ces gestions de crise, en quoi le management de transition peut être un atout, Éléonore?
En fait, le management de transition est un atout d'abord parce que, comme on le sait, les managers de transition sont des personnes expérimentées qui ont donc pu vivre ce genre de crise. Et en général, c'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire pouvoir placer quelqu'un qui a déjà vécu ces crises. Et parce qu'ils ont cette expérience, cette séniorité, ils ont la capacité à vite rentrer dans les sujets, à vite voir ce qui se passe, à vite proposer et à vite faire. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que le management de transition en cas de crise est vraiment un atout. Parce que très rapidement, et moi je le sens à la voix de mes clients, ils m'appellent, ils sont stressés.
C'est quelqu'un de formé. Ouais.
Un manager de transition arrive, il l'a déjà fait. Il a une boîte à outils énorme parce qu'en général, il avait plusieurs sociétés. Donc, il a plein de solutions qu'il va adapter. Et là, et je le sens encore à la voix de mon client, je sens qu'au bout d'une semaine, 15 jours, les choses commencent à s'apaiser.
Dans quel cas on fait appel à un manager de transition pour des crises? Quelles peuvent-elles être ces crises?
Ça peut être, comme l'a dit Pierre, le décès soudain d'un dirigeant, c'est quand même pas ce qui est le plus fréquent, Dieu merci. Une crise sociale très importante. Ça peut être, on l'a dit, des problèmes de fournisseurs, des problèmes de business, de la croissance ou de la décroissance à gérer.
Des missions rotor aussi, d'après ce que je comprends, ça fait partie des missions sur lesquelles des managers de transition peuvent intervenir. Une mission rotor, c'est quoi, par exemple?
Une mission rotor, je l'assimilerais à une mission où il y a un vrai sujet managérial. Moi, ça m'est arrivé qu'on m'appelle en me disant, on a eu un manager toxique. Il faut redonner confiance à une équipe entière. Pour moi, ça, c'est compliqué parce que le point de départ est quand même, c'est pas très glorieux. Et parfois, la dimension principal, on va me dire, c'est j'ai besoin d'un manager de transition qui soit manager. Parce que tout le monde n'aime pas manager. Un manager qui aime ça, ça sort par tous ses pores, il aime ça avant tout.
Dont l'expertise et le management.
Exactement. On a pu même me dire, s'il n'a pas l'expertise sur tous les pans du métier, c'est pas grave. Mais il faut qu'il redonne envie, il faut qu'il réembarque. Ça, pour moi, c'est une mission un peu retors dans le sens où le postulat de base est quand même pas évident.
On parle de crise, c'est important peut-être de se préparer pour éviter ces crises. Qu'est-ce qu'un plan de prévention de crise, Pierre?
En fait, Éléonore a commencé à aborder le sujet. Le manager transition doit pouvoir rassurer le client et les salariés et les équipes. Rassurer, c'est tout simplement anticiper ce qui peut arriver. Il y a des éléments qui sont de nature à perturber une entreprise qu'on peut anticiper, qu'on peut préparer. Et donc, ça consiste pour toutes les entreprises, imaginer des scénarios plus ou moins catastrophes avec des plans de fonctionnement dégradés.
Vous les imaginez comment? Ça sort de votre tête ou c'est un process, une méthodologie qui consiste à aller interroger telle et telle personne dans l'entreprise pour identifier des signaux forts, des signaux faibles?
Dans toutes les entreprises et en fonction de leur, on va dire, historique, de leur culture, on est amené à imaginer une rupture dans les process, tout simplement, de production, de fonctionnement de l'entreprise. Et imaginez le scénario qui est assez classique en termes de crise, c'est une rupture fournisseur qui soit à l'origine d'une défaillance du fournisseur, d'une défaillance de la logistique, d'une défaillance du système logistique interne de l'entreprise. C'est une première forme de crise. Et tout au long des processus de l'entreprise, il faut imaginer qu'on a une difficulté et comment on va pouvoir la gérer. Et quelque part, ce qui va être rassurant, si ce phénomène arrive auprès des équipes, c'est qu'on l'aura anticipé. Dire, certes, on est en situation de crise, mais on l'a anticipé, on a identifié des solutions, il n'y a plus qu'à les appliquer.
Mais du coup, c'est à vous d'écrire ces process pour les comprendre, ou est-ce que ça peut être un tips intéressant pour les dirigeants de créer ces process pour qu'ils puissent être analysés ensuite par des profils comme le vôtre?
En fait, ça relève pas formellement du management de transition d'imaginer ce genre de situation. Ça devrait être une forme normale d'exercice des dirigeants et de leurs équipes, pas seulement donc des dirigeants. Imaginez à chaque fois ce qui peut se passer au pire et au mieux et comment on va anticiper les choses.
Dans la réalité, est-ce qu'ils sont souvent préparés en amont, ces process, ces scénarios, ces plans de succession?
Ça dépend de la maturité des entreprises, de leur taille, si elles sont très industrielles, la rupture de fournisseurs, ces choses-là. Je pense que dans les milieux industriels, c'est très préparé. Après, sur les plans de succession, c'est pas toujours très préparé. D'autant plus que la vie des entreprises fait que les gens bougent. Donc, on peut avoir des idées et puis finalement, la personne n'est plus là, on n'a pas repensé le sujet. Et là, on peut se retrouver dans une crise managériale.
Imaginons un plan de prévention de crise a été réalisé ou non. Et une crise survient. À ce moment-là, une cellule de crise est généralement créée, instaurée. C'est le lieu où les décisions sont prises, d'après ce que je comprends. Quelle est sa mission, Pierre, cette cellule de crise?
Décider.
Et rassurer. Ensuite,
exactement. Les situations de crise obligent à prendre des décisions qui soient rapides en termes d'adaptation sur les résultats à obtenir et sur la manière de les obtenir. Ça, c'est une première chose qui est extrêmement importante. Et je rejoins complètement Éléonore. Cette manière de prendre les décisions, c'est une décision d'équipe, c'est une décision collective. L'alignement est réalisé au moment de la prise de décision. Et donc, cette gestion de crise avec cette cellule de crise fait que la décision est collective, elle devra et sera, on va dire, comprise et appliquée par tout le monde.
Éléonore?
C'est très important qu'elle soit collective parce que dans ce genre de cas, les salariés d'une entreprise, et je pense évidemment à la Covid, sont très inquiets. Et de sentir son comité de direction, en tout cas les dirigeants de l'entreprise, peu importe la forme, ensemble, solidaires, donnant l'information, prenant des décisions, c'est très, très important.
Ouais.
Sinon, ça continue de laisser des doutes. Les cellules de crise, en tout cas ce qui en ressort, doivent absolument empêcher les salariés de mal gamberger.
Ouais. Pour autant, une cellule de crise, elle a peut-être vocation aussi à garder le contrôle sur la diffusion de l'information, ne
bien
pas
sûr
tout sortir. Il y a aussi ce rôle-là de centraliser, de conserver, de maîtriser l'information.
Absolument.
C'est important pour nous dans ce podcast de comprendre le rôle des RH dans cette gestion de crise. En quoi le DRH, est-il un acteur clé dans ces périodes turbulentes, Pierre?
C'est important de pouvoir rassurer. Donc le DRH va être là pour pouvoir aider à la communication descendante, à l'information des salariés. Il va être aussi là pour pouvoir écouter ce qui se passe au plus près du terrain et faciliter cette communication avec les managers. Donc, la partie sur laquelle DRH et la direction des ressources humaines doit pouvoir aider, c'est sur la capacité à donner un outil, des outils, des capacités pour pouvoir entendre et diffuser les bonnes informations.
Quel type d'outil?
On doit être amené, dans ce cadre-là, à avoir des réactions rapides. Donc, avoir une capacité à pouvoir réunir facilement, à pouvoir projeter les gens qui ont des capacités managériales et je dirais même plus de leadership dans ces situations. Il y a des personnes qui ont des capacités techniques qui sont évidentes et qui sont de très mauvais communicants. Dans les situations de crise, on a besoin des deux. Et savoir partager, et savoir utiliser, et savoir s'appuyer sur les meilleurs talents.
Là, on évoque le rôle des RH comme des rôles de communicants en interne. Est-ce que les RH peuvent apporter aussi une vision différente par rapport à un sujet, un point de décision qui pourrait être orienté différemment parce qu'on prend en compte certaines choses, la gestion des compétences, les formations, des choses purement RH, quoi?
On l'a vu dans la situation du Covid, les RH ont fait beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui n'étaient pas de leur domaine. Et c'est ce qui a permis effectivement à montrer auprès des dirigeants que les DRH étaient nécessaires dans les situations de crise parce que, un, ils maîtrisaient leur technique, le domaine RH, mais surtout qu'ils comprenaient les métiers et les objectifs de l'entreprise, plus des éléments qui étaient exogènes. Et c'est là où les RH ont gagné leur lettre de noblesse dans les situations de crise où on leur demandait de faire plus que leur métier.
Éléonore, sur le rôle des RH dans ces cellules de crise?
Et c'est tout ce que dit Pierre. Après, il y a quand même une chose importante, je trouve, c'est que les RH, elles vont aller dans le sens de toute façon de la direction générale.
elles vont dans le sens à la fin. Mais avant, il peut y avoir aussi des débats, il peut y avoir des confrontations.
Il peut y avoir des départs. Mais en tout cas, de toute façon, ce qui doit sortir de la communication, c'est quelque chose d'aligné de la part de tout le monde. Ça, c'est les débats. Personne ne les voit, personne ne les entend. Mais en tout cas, les RH, moi, je trouve, et je l'ai vécu, sont quand même à l'image de ce que veut la direction générale et agissent dans ce sens-là. Après, elles vont agir avec plus ou moins d'humanité en fonction, en fait, de la personnalité des dirigeants. Et s'il y a un trop gros gap entre ce qu'un DRH est intrinsèquement et sa direction générale, forcément, ça fonctionne pas.
Il y a une crise de valeur, du coup.
Oui, là, oui, pour le coup, il y a une crise
Une crise dans la crise.
Vraiment.
Ouais. Pierre, je comprends qu'il y a un rôle de communication en interne sur les décisions prises dans cette cellule de crise, mais j'imagine que le ou la RH peut avoir aussi une vision particulière, différente à apporter à des sujets même très, très, très opérationnels.
Oui, complètement. En fait, le DRH ou la DRH doit être porteur de solutions. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de crise avec un fournisseur. Dans ce cadre-là, le fait d'intégrer les équipes dans ces sujets est très important. Le but est de pouvoir accueillir les pièces au moment où elles vont arriver.
Ouais.
Et surtout, de ne pas mobiliser de ressources au moment où les pièces ne sont pas là. Et donc, on va être là pour pouvoir apporter des solutions, pour pouvoir maximiser le nombre de ressources au moment où les pièces vont arriver. Et faire en sorte que les ressources ne soient pas gaspillées quand les pièces ne sont pas là.
Donc la voix au chapitre des ressources humaines est fondamentale dans toutes les décisions d'une cellule de crise.
Complètement.
Ouais.
Et donc les solutions vont être apportées pour pouvoir tout simplement anticiper ces moments de crise et faire en sorte de porter cette adhésion au niveau des salariés et des organisations.
Et souvent anticiper, j'imagine, Éléonore, que lorsqu'il y a une situation de crise avec une problématique RH, même si elle est très opérationnelle, cette problématique, il y a toujours dans la tête des ressources humaines une vision de l'avenir sur peut-être faire évoluer les compétences, faire de la formation.
Bien sûr, je pense qu'il y a le moment de crise à gérer. Puis après, en tirer les conclusions, les conséquences et mettre en place des nouvelles organisations, des nouvelles procédures, mettre en place de la formation si on décide de lancer de nouveaux produits.
On est dans l'instant et dans l'instant d'après, toujours.
Tout le temps.
Pierre.
Et quelque part, en fait, c'est tout simplement développer la capacité d'adaptation des organisations et susciter ça donc par la formation, travailler ça avec la formation, travailler ça avec la mise en situation. C'est toujours développer la capacité à s'adapter.
C'est important qu'il y ait la vision d'après parce que les salariés doivent sentir que la direction se projette, que la direction a une vision. Parce que quand il n'y a pas ça, et ça m'est arrivé de le vivre, ça paralyse totalement les organisations.
De par vos expériences professionnelles à tous les deux, est-ce que vous avez des conseils à nous partager pour une meilleure gestion de crise, tout simplement, Pierre Chanal?
En fait, dans le cadre d'une crise, on a besoin de rassurer les équipes. Au-delà donc des objectifs de l'entreprise, de pouvoir les réaliser, il faut rassurer les équipes. Rassurer les équipes, ça demande des compétences qui sont celles d'un manager, mais qui vont aller bien au-delà. Quand on parle de leader, et j'aurais presque même tendance à dire de coach d'entreprise et pas de coach de personne. De personnes qui sont capables d'identifier les difficultés, d'identifier les limites de chacun et même des organisations, et de déplacer ces limites. Non pas de les faire dépasser. Dépasser les limites, c'est toujours dangereux. Il y a des personnes qui sont capables de le faire, d'autres pas. Et les organisations, c'est la même chose. Il y a des organisations qui sont capables de dépasser des limites, mais pas toutes. Et c'est là où le management de transition peut aider, c'est d'identifier et de pousser toutes les organisations, toutes les équipes, à identifier ces limites et à les déplacer dans situation de crise.
Donc le conseil, c'est utiliser les personnes qui connaissent ce type de situation, qui sont formées à ça pour anticiper toutes ces problématiques qui peuvent intervenir dans le cadre d'une crise.
Oui.
C'est ça.
Parce que dans le monde normal où tout va très bien, on est capable de fonctionner d'une manière normale. Quand on est en situation de crise, ce qui va venir en premier polluer toutes les décisions, c'est les émotions.
Ah oui, intéressant. Mettre ces émotions de côté.
C'est accueillir les émotions,
ouais.
De rappeler qu'elles sont normales.
Parce qu'elles sont toujours là, en fait.
Elles sont toujours là. Et surtout, d'être capable de pouvoir les gérer et les faire gérer.
Éléonore ?
Moi, ce que je trouve très important dans la posture du manager de transition par rapport à ce sujet, c'est que comme il ne fait pas partie de la société, il a une vraie prise de recul et une prise de hauteur. Il n'est pas dans l'enjeu de sa carrière dans la structure. Donc du coup, il peut vraiment avancer des sujets et prendre des décisions, évidemment en accord avec la direction, mais alors pour le coup, sans trop d'émotions. C'est pas pour ça qu'il ne les accueille pas. Mais en revanche, lui, comme il n'est pas concerné, après sa mission, il s'en va, il recommence ailleurs. Il y a cette prise de hauteur et cette prise de recul qui, je trouve, extrêmement fondamentale dans ce genre de moment. Et le manager de transition a cette posture.
Quel conseil on peut donner aux entreprises sur l'information sur le rapport qu'on peut avoir avec les différentes équipes, les collaborateurs, les collaboratrices. Puis je crois que vous avez vécu une situation où justement l'entreprise voulait impliquer à fond les salariés.
Oui, effectivement, vous faites référence à une situation qu'on avait pu évoquer dans l'automobile il y a quelques années. J'avais pris un poste, une fonction pour pouvoir gérer de la croissance et en fait, pendant presque 6 ans, j'ai géré de la décroissance. À ce moment-là, on pouvait penser que les équipes seraient démotivées. Elles l'ont été. À un moment donné. Elles l'ont été, mais on a su réveiller, quand je dis « on », c'est toutes les équipes, on a su remobiliser les équipes autour d'objectifs communs, qui étaient de retrouver les valeurs de l'entreprise, qui avaient permis effectivement de travailler en croissance. Et on s'aperçoit que quand on a des grandes valeurs et qu'on a une vraie éthique d'entreprise, quels que soient les moments, on peut s'appuyer dessus. Et c'est même rassurant. On peut embarquer les équipes en travaillant sur leur fierté et sur la capacité à vouloir réussir. En situation de crise, à un moment donné, on peut se confronter à une grosse difficulté, voire à des échecs qui sont presque annoncés. Et dans ces conditions, il faut savoir mobiliser les équipes sur le fait qu'il y a 2 solutions. Soit on va dans le mur, soit on aura tout fait pour l'éviter. Et si on va dans le mur, on pouvait être fier d'avoir tenté de l'éviter.
Et Léonore, ça peut paraître paradoxal. Lorsqu'on a une crise, on peut être tenté de gérer la crise le très court terme. Pour autant, c'est bien là où les ressources humaines ont un rôle à jouer pour gérer le long terme, gérer l'objectif commun et mobiliser les équipes vraiment sur le moyen, le long terme. C'est fondamental, après ce que je comprends.
C'est fondamental, mais c'est pas forcément le rôle du manager de transition.
Ouais.
Lui, il est vraiment là pour affronter la crise, la résoudre. Mais après, bien sûr qu'il peut donner les clés parce qu'il a pensé à des nouvelles choses, mis en place de nouvelles choses, à ceux qui sont toujours là ou à ceux qui vont arriver pour prendre le relais. Mais c'est vrai que le manager de transition, lui, ne se projette pas dans le long terme.
Est-ce que pour autant, le manager de transition peut détecter des signaux faibles avec un regard différent, objectif, nouveau ?
Bien sûr, mais c'est le cas pour tout le monde quand on arrive quelque part. Donc, le manager de transition le vit à chaque mission.
Rapport d'étonnement.
Exactement.
Ouais.
Et il détecte les signaux faibles et doit les remonter. Enfin, ça dépend de la situation et en faire quelque chose, bien sûr.
Pour terminer, j'ai une question pour tous les deux. Comment on peut tirer des leçons d'une situation de crise ? Pierre ?
Toutes les situations donc, doivent donner lieu à un rétex. C'est simplement qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui s'est pas bien passé ? Et identifier le pourquoi. La question n'est pas de savoir qui est responsable de quoi, c'est plutôt le comment.
Oui, parce que c'est souvent un enchaînement de plein de petites choses qui créent une crise, j'imagine.
C'est exactement ça, exactement ça. Une situation complexe, c'est toujours un cumul de difficultés qui vont venir, on va dire, s'ajouter les unes aux autres. La conséquence, c'est qu'il faut savoir préparer les entreprises, les organisations, les hommes à ces situations donc de difficultés, soit par des formations, soit par des mises en situation, et à travailler ces mises en situation de manière à ce que, lorsque une crise survient, on soit rassuré dans l'application de ces mises en situation.
Il peut y avoir des nouvelles organisations aussi, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Des nouveaux procès, des nouvelles procédures. Enfin, ça passe par plein de...
Plein de choses, mettre en place des plans de formation, un référent sécurité. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais ce rétexte est fondamental pour tirer les leçons de tout ça et avancer plus sereinement.
Quand on parle de rétexte, il faut absolument à chaque fois imaginer qu'on doit planifier ce qui fonctionne, organiser, à un moment donné s'inquiéter et se dire est-ce que ça a fonctionné et comment ça a fonctionné, pourquoi. Changer les organisations, corriger. Et à ce moment-là, donc, revoir dans le mode de fonctionnement de l'organisation comment ça peut travailler. C'est juste du PDCA, du Plan, Do, Checked, Act.
PDCA, bah, ça sera le mot de la fin, l'acronyme de fin. On n'aime pas trop les acronymes, mais comme vous l'avez bien défini, on est bon. Tout va bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Léonore Piau.
Merci David.
D'avoir, encore une fois, participé à ces podcasts. Et merci Pierre Chanal pour avoir partagé votre expérience. Grâce à vos expertises, nous avons pu mettre en avant les différents enjeux d'une gestion de crise en entreprise. Et merci à vous, tous les auditeurs. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour être tenu informé des prochains épisodes de Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. À très bientôt.